Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
7h43, c'est le petit déjeuner politique de Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis et président de l'UDI.
Bonjour Jean-Christophe Lagarde.
Bonjour.
Emmanuel Macron, après avoir réuni les industriels du vaccin, s'est invité aux 20h hier soir sur TF1 pour assurer que d'ici à la fin de l'été, nous aurons proposé à tous les Français, dit-il, adultes qui le souhaitent, un vaccin. Est-ce que vous êtes surpris, rassuré par cette déclaration-là, alors que ça patine pour l'instant du côté de la vaccination et puis des commandes de doses ?
Ni surpris ni rassuré, c'est en réalité ce qui est prévu depuis le départ, mais je comprends que le président de la République veuille dire aux Français, bon, il y a des ratés de la part de l'industrie pharmaceutique, c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas lui qui produit les vaccins. Il y a un sujet, à mon avis, européen quand même, mais c'était prévu qu'on ait le nombre de doses nécessaires.
Oui, c'était prévu, mais là, on a vu que ça patinait. Et
c'est pour ça que je vous dis, et d'ailleurs l'industrie pharmaceutique l'a dit il y a, je me semble, 3 semaines, qu'ils allaient avoir un creux, notamment Pfizer, qu'ils allaient avoir un creux au mois de février, et puis que ça allait remonter à partir de fin février, début mars, parce qu'ils changent leur ligne de production pour augmenter. Je parle de Pfizer et de Moderna, je ne parle pas d'AstraZeneca, où le problème central me semble être en réalité que cette société a signé des contrats avec l'Union européenne, a signé des contrats avec la Grande-Bretagne. Ils ont 4 usines en Europe, dont 2 en Grande-Bretagne, et ils ont dit que toutes ces usines pourraient livrer l'Europe. Sauf que quand ils ont signé avec la Grande-Bretagne, ils ont dit que les 2 usines en Grande-Bretagne ne livreraient que la Grande-Bretagne. Du coup, le gouvernement britannique de M. Johnson est en train de lui mettre la pression, et ils ont dit on livrera pas l'Europe, il faut que l'Europe elle tape plus sérieusement du poing sur la table, parce qu'AstraZeneca, il vend pas que des vaccins, il vend d'autres choses. Ouais. Et s'il veut se priver d'un marché de 450 millions d'Européens, en tout cas si moi j'étais à la place de la présidente de la Commission, je lui dirais, si vous voulez vous priver de notre marché sur l'ensemble, continuez comme ça.
Ouais. Autre chose quand même dans la déclaration d'Emmanuel Macron hier, il veut mobiliser 4 sites de production pharmaceutique en France.
Oui, là c'est pour de la mise en bouteille, de la mise en flacon. Moi je pense qu'on aurait dû anticiper quand même les choses, et qu'on aurait dû se proposer d'acheter des licences, c'est-à-dire la capacité de produire nous-mêmes des vaccins. En tout cas, à partir du moment où Sanofi a annoncé, mais il y a plusieurs mois, que ses premiers essais n'étaient pas convaincants, et ça arrive dans la recherche d'échouer, eh bien, on aurait dû se dire que la capacité de production de Sanofi devait être mobilisée à travers des licences, puisque Sanofi avait dit on ne sera pas prêt avant la fin 2021.
Ouais.
Donc, par définition, ils étaient plus utiles, entre guillemets, sur la première vague de vaccination nécessaire. Et ça, je trouve regrettable que finalement, on n'ait pas négocié des licences avec ceux qui avaient les vaccins. On voit la difficulté de Pfizer, on voit la difficulté de Moderna, qui, eux, étaient déjà opérationnels, vendus à d'autres pays pour les produire nous-mêmes. La mise en flacon va gagner un peu de temps, mais pas autant que ça.
Ouais. Quand même, il faut cette déclaration d'emmanuel Macron qui s'invite aux 20h pour rassurer un tout petit peu. Ça veut dire qu'il y a un problème de certains ministres qui ne sont pas bien entendus, bien compris. Est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer, on l'évoque de temps en temps, mais le ministère de la Santé. À Bercy, ils sont je ne sais pas combien de ministres. Là, on a une guerre sanitaire et on a un ministère de la Santé où il n'y a pas de... Il n'y a personne, secrétaire d'État à la logistique, aux affaires sociales, par exemple, ou pas, ou c'est une mauvaise idée.
Je suis pas sûr que de rajouter les ministres, ça solutionne un problème.
Non, mais un seul ministre ne peut pas tout faire.
Oui, enfin, il faut surtout que ce gouvernement maîtrise son administration. Moi, j'ai eu le sentiment, sur les ratés du début de la vaccination, et là, je parle pas du manque de vaccins, du fait qu'on soit parti 15 jours ou 3 semaines en retard par rapport à tout le monde, j'ai eu le sentiment qu'en réalité, ils n'avaient pas maîtrisé leur administration. Quand vous avez 70 pages d'instructions pour pouvoir dire comment vacciner quelqu'un dans les EHPAD, ça pose un problème. D'ailleurs, ce problème, il vient de quelque chose que personne n'aborde. C'est la trouille qu'ont aujourd'hui les responsables administratifs et les responsables politiques des procédures judiciaires. Et je veux dire que ces procédures judiciaires, elles sont absurdes en cours d'épidémie parce qu'elles paralysent la capacité d'action. Vous savez, ces 70 pages de conseils ou d'instructions pour les EHPAD, dont le ministre a dit qu'elles n'existaient pas, bien sûr qu'elles existaient, tout le monde les a vues, tout le monde les a reçues. C'est d'abord le bas de l'administration qui se protège parce qu'il ne veut pas être accusé d'avoir vacciné à tort ou de ne pas avoir pris les précautions, puis le haut de l'administration qui en rajoute une couche, puis le ministre qui en rajoute une couche, et quand tout le monde a la trouille, plus personne n'agit. Il n'y a qu'en France que ça se produit. Je le dis clairement parce que moi je considère qu'il est absurde de vouloir poursuivre des gens sur un phénomène qu'on ne connaît pas. Vous avez vu que M. Véran, au deuxième confinement, il était perquisitionné chez lui le matin.
Ouais.
Enfin, il y a un an, on n'avait aucune donnée scientifique sur cette maladie. Souvenez-vous qu'on nous disait que ça contaminait les enfants, alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Ce sont les variants qui, aujourd'hui, contaminent les enfants. Donc, vouloir des responsabilités pénales sur un domaine inconnu est absurde. Il y a quelques années, on avait le problème avec les élus locaux. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait en sorte que quand un élu local sait qu'il y a un danger et qu'il n'y remédie pas, il est pénalement condamnable. Quand il ignore le danger, vous ne pouvez pas le poursuivre. Et vous ne pouvez pas poursuivre des gens, juste des ministres ou des hauts responsables administratifs, sur des dangers qu'ils ne connaissent pas.
Oui. Est-ce que la stratégie de vaccination doit être repensée là, aujourd'hui, avec le fait, par exemple, qu'AstraZeneca ne serait pas efficace pour les plus de 65 ans ? Alors, vous avez proposé, vous, que ce soit injecté aux étudiants. Ça a été plus ou moins rejeté par Jean Castex.
Vous savez, ce gouvernement rejette souvent a priori une idée qui n'est pas la sienne pour finir par l'adopter un peu plus tard. Moi, je les invite à réfléchir.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe ? On a deux vaccins qui sont efficaces à 94 et 95%, Pfizer et Moderna. Ceux-là, on les donne à nos anciens parce que ce sont les plus fragiles, ce sont ceux qu'il faut le plus protéger. Il y a un vaccin AstraZeneca qui, pour les moins de 65 ans, est efficace à 70%. D'abord, qui d'entre nous a envie que ses parents ou ses grands-parents soient protégés à 70% alors qu'ils sont les plus fragiles, plutôt que 94 ou 95%? Je pose la question. Évidemment que tout le monde souhaite les autres. Alors ça met un peu plus de temps, mais c'est plus protecteur. Et on voit que d'autres pays, l'Allemagne, la Pologne, d'autres, sont en train de dire on ne va pas les utiliser aux moins de 65 ans. Nous-mêmes, on dit, attention, pour l'instant, on n'a pas les données. Pas parce qu'ils seraient plus dangereux.
Ouais.
Tout simplement parce que ils peuvent être moins efficaces encore que les 70%, c'est-à-dire finalement de donner l'illusion de la protection. Je propose, puisqu'on ne peut pas les utiliser sur les plus de 65 ans, nous proposons qu'on l'utilise prioritairement sur le deuxième drame sanitaire qui est en train de se dérouler, c'est-à-dire sur nos étudiants. Il y a 2 800 000 étudiants qui, pour la grande majorité d'entre eux, n'ont pas vu un professeur, une salle de classe, un autre étudiant depuis 10 mois. On a des études montrant que 40% sont en dépression, enfermés dans des chambres étudiantes, parfois à 300-400 km de chez eux, sans voir personne. Il y a un décrochage massif, il y a des tentatives de suicide. Je dis que vacciner nos jeunes, pendant qu'on protège par ailleurs les anciens avec le Pfizer et le Moderna, vacciner nos jeunes pour leur permettre de retrouver espoir, cours, une vie sociale plus normale, est une urgence.
Bon, et donc ça, vous pensez que cette proposition peut revenir ?
Ben vous voyez, je vois que par exemple en Allemagne, ils sont en train d'y réfléchir. Le gouvernement français a souvent un temps de retard. Je l'invite à essayer de prendre un temps d'avance.
Bon, on vous invitera dans 15 jours, 3 semaines. Peut-être que votre décision
reviendra
sur la table.
S'ils le font, vous n'avez même pas besoin de m'inviter. Non. Je serais ravi qu'ils prennent une bonne décision.
Oui. Est-ce qu'il y a suffisamment de transparence ? On l'évoquait tout à l'heure avec un auditeur.
Non.
À l'Assemblée nationale, il y a eu une mission. Est-ce qu'aujourd'hui, les débats, vous êtes tenus suffisamment au courant des choses ?
Non, c'est un des problèmes de la crédibilité. Après nous avoir menti sur les masques, nous expliquer qu'ils n'étaient pas nécessaires, etc. Il y a un manque de transparence aujourd'hui sur ce qui se passe. La mission d'information de l'Assemblée nationale a été clôturée par la majorité sans aucune espèce de raison.
Mais c'était 6 mois.
Pas du tout. Au mois de décembre, quand le rapport de M. Ciotti a été rendu, j'étais présent.
Oui.
Ils ont dit qu'on allait continuer à travailler. Par exemple, on pouvait travailler sur la vaccination, on pouvait travailler sur ces gens qui ont eu le Covid mais qui continuent à avoir des suites, etc. La mission du Sénat continue. Elle, c'est quand même un paradoxe que les élus du peuple, par la volonté d'En Marche, n'aient plus de mission d'information alors que le Sénat en a lui-même et qu'ils sont élus indirectement. Mais je vais plus loin. Vous avez, un certain nombre de questions qui se posent et qui devraient être l'objet de débats réguliers. Hier soir à l'Assemblée nationale, pour la prolongation de l'état d'urgence, c'est-à-dire de la capacité à mettre en œuvre, par exemple, un confinement, ils ont refusé que s'il y a un confinement, on ait un débat tous les mois sur les modalités du confinement.
Ouais.
Mais enfin, pourquoi se cacher ? Et dernier point, le Conseil de défense, nom d'un chien.
Ouais.
Le Conseil de défense, aujourd'hui, est réuni le même jour que le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, c'est quelque chose d'officiel qui donne lieu à un ordre du jour, un compte-rendu, on sait ce qui s'est passé. Le Conseil de défense, personne ne sait ce qui s'y passe, alors même que...
C'est secret défense c'est pour ça ?
Ben, ça n'a rien d'un secret de défense de savoir comment on doit vacciner les Français, enfin, dans un chien. Peut-être eu une utilité à cet outil au début, parce qu'il fallait qu'ils fassent des réunions rapidement, moins formelles que le Conseil des ministres. Mais maintenant, il y avait un Conseil de défense samedi. Ils ont décidé de ne pas confiner, on ne sait pas en fonction de quels critères. Il y a un nouveau Conseil de défense aujourd'hui, le jour même du Conseil des ministres. On ne sait pas ce qui s'y décidera, ce qui s'y discutera. On ne sait pas quelles sont les données. D'ailleurs, ça ne permet pas, par exemple, de connaître les données réelles de l'évolution des variants.
Ouais.
Le plus important pour savoir si on sera confiné ou pas, c'est l'évolution et la dynamique des variants. Ce sont ces variants qui ont fait exploser la situation en Grande-Bretagne, exploser le système médical au Portugal. C'est ceux-là qu'il faut surveiller, c'est ceux-là sur lesquels nous n'avons pas de données.
Oui, là, vous n'avez pas d'informations sur un possible reconfinement en cette fin de semaine, comme ça a été évoqué pendant les vacances scolaires.
Écoutez, la semaine dernière, vendredi dernier, le Premier ministre nous a montré des chiffres qui montraient qu'il fallait confiner. Samedi, on nous a dit qu'il ne fallait pas confiner. confiné. Moi, je pense que le confinement sera malheureusement inévitable. Mais il dépend, et en cela, le président de la République a raison, de chacune et de chacun d'entre nous de savoir quand. Plus il est tard, plus il vient tard, parce qu'on a vu ce qui s'est passé, tous les autres pays actuellement autour de nous sont confinés en dehors de l'Espagne. Et l'Espagne fait ce sacrifice pour des raisons purement économiques. Mais elle sait qu'elle sacrifie des vies humaines. C'est un choix lourd. Est-ce qu'on le fait, on fait le même en France ? Pour revenir à ça, plus on arrivera par nos gestes, par nos comportements individuels, à confiner tard, moins on perdra économiquement, mais surtout on arrivera plus vers les beaux jours, on aura vacciné plus de monde, on aura moins de morts. Ça dépend de chacune et de chacun d'entre nous. Après, expliquer qu'on pourra y échapper, j'ai des doutes pour une raison simple, c'est que la difficulté avec les nouveaux variants, c'est qu'ils contaminent nos enfants, ils les rendent pas malades, mais ils sont contaminables et contaminants. C'est difficile de penser que le virus ne circule pas à l'école, je m'interroge d'ailleurs de pourquoi on ne teste pas plus dans les écoles pour surveiller, c'est ça qui a fait exploser la situation dans nos autres pays.
Un peu en Île-de-France.
Un peu timidement, parce qu'il y a trois semaines, j'entendais M. Véran dire qu'il était capable de faire 1 million de tests dans les écoles, je crois, par semaine.
Vous avez vu Blanquer qui va faire du sport, cette activité, là, une demi-heure à l'école, c'est du gadget, ça, hein ?
Je pense que la communication nuit parfois à l'action politique.
Bon. Un mot maintenant aussi sur le débat à l'Assemblée nationale sur les principes républicains, loi séparatisme, etc. Certains disent que finalement tout n'est pas suffisamment sur la table parmi les dossiers. Alors il y a le séparatisme, est-ce que ça va suffisamment loin ou pas ? Vous allez nous le dire. Et puis il y a aussi l'immigration. Hier on nous a répondu que non. Il y a aussi la délinquance dans certains quartiers. Est-ce que selon vous, on a de tout dans cette fois.
Il faut pas tout amalgamer. La délinquance n'a rien à voir là-dessus. On aurait sans doute besoin d'une loi.
Non, mais il y a la guerre des bandes, par exemple.
Mais ce ne sont pas les principes républicains. C'est pas ça le sujet. En réalité, il y a un discours des Mureaux du président de la République, c'est aux Mureaux, où il dit des choses très justes, à la fois sur le constat et sur ce qu'on doit combattre. Le constat, c'est les échecs de la République française ont nourri un terreau qui font un écosystème favorable à un discours islamiste, qui est un système totalitaire, qui dévoie la religion musulmane pour en faire une arme politique et un projet politique, un projet totalitaire, je le disais. C'est ce terreau qu'il faut combattre. Mais ce terreau, vous le combattez pas uniquement en allant taper la haine en ligne, et il faut le faire, en allant imposer la laïcité à des associations, à des services publics, à des délégués de services publics, et il faut le faire. Donc ce qu'il y a dans le texte de loi de ce point de vue-là convient. En revanche, ce terreau n'est pas attaqué à sa racine, sur la capacité de réussite éducative, d'inclusion sociale, de lutte contre les discriminations. Parce que quand vous avez des discriminations, c'est facile ensuite que le salopard vient raconter à telle ou telle personne, tu vois bien qu'on ne veut pas de toi dans cette société, qu'il faut combattre cette
l'intégration,
société.
L'intégration, quoi.
Il faut aussi, c'est-à-dire, le projet de loi, il est unijambiste. Il regarde un côté, il ne regarde pas l'autre, alors que le discours du président de la République, il avait les deux jambes. Et il y a une jambe qui s'est perdue entre-temps.
Bon, et donc la guerre des bandes, tout ça,
non,
parce que là, c'est...
Je veux vous dire une chose que personne ne regarde, ce qui me choque énormément. Comment dire ? Dans ce texte de loi, nous n'avons pas pu présenter des amendements. Il y a eu une interprétation folle de notre règlement, mais enfin passons. Et notamment en lien avec le respect des valeurs républicaines. Il s'est produit ces derniers mois quelque chose dans notre pays qui ne s'est jamais produit depuis la Seconde Guerre mondiale, à Décines et à Dijon. À Dijon, des Tchétchènes sont venus faire une ratonnade. Ils voulaient se payer de l'arabe. À Dijon, ce sont des Turcs qui voulaient se faire des Arméniens. J'ai appelé ça une arméniade. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que nous avons deux groupes ethniques, des groupes ethniques, qui en groupe viennent s'en prendre à un autre groupe ethnique. Nous proposons à l'UDI que ça devienne un crime contre la République. Parce que vous voyez bien que ça rappelle les pogroms chez Hitler de l'avant-guerre. On ne peut pas laisser ça se déployer. C'est pas la même chose qu'un acte individuel.
Et ça pourrait être dans la...
Je souhaitais que ce soit dans la loi. Ça a été interdit par la majorité. On n'a même pas le droit d'en débattre. Vous vous rendez compte quand même qu'il faudrait un peu réveiller parce qu'à Dijon, lorsqu'il y a eu... à Décines, lorsqu'il y a eu les jeunes Turcs, comme ils appelaient ça, qui ont essayé de se faire des Arméniens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont été verbalisés, vous savez pourquoi ? Pour non-respect du couvre-feu. Aucune autre poursuite. On est chez les fous, là.
Question de fin avec Cécile.
Oui, pour lutter contre la précarité des étudiants, puisque vous proposez déjà la vaccination, Yaël Braun-Pivet, qui est présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, propose une prime à verser aux étudiants. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne solution ?
Oui, moi j'ai signé une tribune il y a une quinzaine de jours pour dire qu'on a un vrai problème chez les étudiants. D'abord, il faut les sortir de l'isolement, parce que le plus inquiétant, c'est leur santé psychologique, leur santé mentale. On a tous autour de nous des gamins qui sont en train de craquer. Et pas de craquer parce qu'ils ne peuvent pas sortir en boîte de nuit, de craquer parce qu'ils sont complètement isolés, laissés à l'abandon, en train de décrocher. Ça, c'est la première chose. Puis, ils décrochent aussi pour beaucoup d'entre eux socialement.
Bien sûr.
Parce qu'ils vivent souvent de petits boulots, de petits trucs, et ces petits boulots, ils ont disparu. Donc, je pense qu'effectivement, et ce n'est pas là une question de boursier, pas boursier, parce qu'on ne saura pas faire le tri entre celui dont les parents ont de l'argent, mais qui en réalité doit assumer ses études tout seul, etc. J'avais demandé à ce que ce soit, par exemple, des bons alimentaires, ça peut être une forme de prime, mais il y a besoin de faire une prime qui ne soit pas de communication. Là, on a des gamins qui sont dans la mouise financièrement et décrocher mentalement. On a besoin de les secourir. D'ailleurs, quand on y pense, ce sont eux qui vont payer les milliards d'euros de dettes que nous sommes en train de faire pour sauver des milliers de vies. On peut au moins leur tendre la main financièrement et sanitairement. Ça me paraît l'urgence.
Merci Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis qui était l'invité ce matin de Sud Radio.
Et on se retrouve dans un instant pour le journal de 8h. À tout de suite.